Nous allons ouvrir nos Bibles toujours dans le livre des Juges. Livre des Juges, chapitre 9. Et nous rester à examiner cette question. Parce qu'au verset 23, avec toute cette histoire d'Abimélec et des habitants de Sichem et la tragédie qui en a suivi, il y avait au verset 23 un élément qui surprend beaucoup de lecteurs de la Bible concernant la manière dont Dieu va agir dans les affaires hein, de ce monde. Au verset 23, il dit: Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimélec. Et on sait que par la suite, hein, ça a amené beaucoup de tragédies et de destructions pour l'un et pour l'autre. Mais beaucoup de personnes, effectivement, se posent la question comment un Dieu qui est de manière inhérente bon et bienveillant peut-il envoyer un esprit malin pour accomplir ses actes comme ils sont décrits ici dans ce chapitre 9 du livre des Juges. Alors déjà, il faut bien comprendre aussi les expressions qui sont employées. Et aussi, on verra hein, de manière théologique comment le Seigneur, effectivement, emploie divers moyens pour que son plan s'accomplisse, mais aussi pour que sa justice prévale. D'abord, l'expression esprit mauvais ou esprit malin, on sait que dans les Écritures, Juges 9 n'est pas le seul passage où on voit Dieu agir de la sorte pour que son plan puisse s'accomplir. On sait par exemple dans le premier livre de Samuel au chapitre 16 et verset 14 que un esprit mauvais hein, est venu de l'Éternel sur Saül, hein, le roi Saül, qui malgré les avertissements avait décidé hein, de désobéir à Dieu. Mais ce qui est intéressant dans ce passage de 1 Samuel 16, 14, c'est le début du verset qui explique aussi pourquoi et comment cet esprit mauvais est venu affecter la vie du roi Saül. C'est verset 14, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Et je crois que déjà là, on a un élément de réponse par rapport à ces situations-là, c'est que la manière d'agir de Dieu dans ces situations, c'est que il laisse la personne continuer dans la direction qu'elle a choisie, dans la direction du péché, et de ce fait se retire, et retire eh bien, toutes ces grâces, ces bonnes actions vis-à-vis hein, de la personne, de protection, etc. Et donc, la personne se retrouve dans la situation finalement qu'elle a choisie, et Dieu en même temps va employer ça pour appliquer sa justice. Et donc, ce mauvais esprit qui a tourmenté Saül, par exemple, là aussi, hein, on a ce même terme hein, d'esprit malin ou nuisible qui va évoquer de l'adversité, de la difficulté, une calamité. Mais on ne peut pas forcément voir et arriver à cette conclusion que parce que Dieu se retire d'une personne ou que Dieu envoie un esprit de la sorte, eh bien, ça veut dire que Dieu peut être mauvais. Je ne pense pas qu'ici on puisse voir un mal moral. Il faut bien comprendre aussi que bah, mal, ça a différentes origines et différents effets. Par exemple, est-ce qu'on va qualifier une ronce d'être immorale ou d'être mauvaise de manière inhérente lorsque nous, en passant à côté, eh bien, notre bras, notre. Moi, j'ai travaillé un peu sur le rosier à la maison et je me suis griffé, j'ai un peu saigné, etc. Est-ce que je peux blâmer la plante d'être mauvaise? Non, ok? Mais il faut bien comprendre que Dieu, hein, lorsqu'il agit de la sorte, il est également souverain. Hein, il est souverain sur toutes les affaires de la terre, même sur les animaux. Il est souverain sur toute créature. Et même souverain sur les esprits mauvais. On peut se demander, mais comment ça se fait? Parce que on se dit, ben, un esprit mauvais, hein, un esprit, un ange déchu, c'est quand même quelqu'un qui a choisi de désobéir à Dieu. Comment est-ce qu'ils peuvent être, eh bien, obligés d'obéir, si vous voulez, lorsque Dieu demande quelque chose? Oui, ils ont désobéi, mais même dans leur désobéissance, ils reconnaissent quelque part, eh bien, la souveraineté de Dieu et le fait que, malgré tout ce qu'ils sont eux-mêmes, ils ont une obligation quand même d'obéir à Dieu. Un exemple, dans les évangiles, hein, vous vous rappelez certainement de ces récits avec cet homme qui était possédé par le démon et que le Seigneur Jésus a délivré, mais ces démons qui étaient là ont reconnu Christ, ont reconnu son autorité, ils ont eu peur et ils ont fait cette demande d'être jetés hein, dans un troupeau de porcs, de cochons. Plutôt que d'être envoyé dans l'abîme, comme Christ en avait tout à fait l'autorité de le faire. Donc, ils ont eu peur, ils reconnaissent l'autorité et la souveraineté de Christ, et même dans ces situations-là, hein, ces esprits mauvais, eh bien, si Dieu ordonne quelque chose, ils vont pas avoir d'autre choix. Quand Dieu va ordonner, hein, que l'adversaire et tous ses démons soient précipités dans l'étang de feu éternel, ils n'auront pas de choix. Ils seront sous l'obligation de le faire. Dieu est souverain sur toute chose, sur tout être vivant, et il permet, alors permet, ça veut pas dire que Dieu approuve, c'est que Dieu donne cette liberté à ces êtres créés de choisir délibérément leurs pensées, leurs actions, leurs paroles. Et donc dans Juges chapitre 9 et verset 23, cet esprit mauvais que l'Éternel donc va envoyer entre Abimélec et Sichem, ça ne veut pas dire que Dieu approuve le mal, mais ça veut dire que Dieu peut employer, eh bien, toute chose pour que sa justice s'applique. Parce que la question ici, c'est surtout une question de justice. Parce que ce que nous avons vu déjà hein, dans ce chapitre 9 concernant Abimélec et Sichem, il est évident que la raison de cela, c'est parce que Abimélec avait commis des choses horribles, il avait fait tuer quasiment tous ses frères, n'est-ce pas? Il avait usé de manigances et de manipulations pour se faire choisir comme roi de Sichem. Les habitants de Sichem, ils ont joué le jeu aussi, hein, ils n'ont pas été très bons et honnêtes, on va dire aussi fidèles par rapport à la famille de Gédéon. Mais voilà, Dieu va employer ces situations-là et permettre, en se retirant ou en envoyant des esprits mauvais, pour que sa justice s'applique. Et donc, dans de nombreux manuscrits hébreux, eh bien, cette notion ou ce terme d'esprit mauvais, d'esprit malin, désigne surtout donc une influence négative ou un malheur, une calamité hein, qui va tomber sur une personne ou un groupe de personnes. Et ça souligne ainsi l'idée que cet esprit, donc, il est à l'origine de la discorde. C'est cet esprit-là qui va attiser ce qui existe déjà dans le cœur de l'homme. Et ça, il faut bien comprendre aussi, c'est que quand Dieu va cesser d'influencer une personne vers le bien, cette personne va naturellement suivre ses penchants pécheurs naturels, et les esprits mauvais, eux, peuvent donc attiser ce qui existe déjà dans le cœur de l'homme pour provoquer des choses encore plus horribles et désastreuses dans la vie de ces personnes-là. Et en cela, ça devient, oui, une application de la justice de Dieu. Et donc, le témoignage que l'on a ici, hein, dans ce récit de Juges chapitre 9 concernant Abimélec et les habitants de Sichem, eh bien, on comprend bien que c'est la justice de Dieu qui a été appliquée. Relisez les versets 56 et 57. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères, et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubal. Rappelez-vous, Jotham, c'était le seul qui avait échappé à cette tuerie, à ce massacre, et qui avait prononcé donc cette malédiction contre la ville de Sichem. Donc là, on a compris par rapport à ce que nous voyons ici dans ces versets, que c'est une application de la justice de Dieu. Alors ce que nous voyons, c'est que oui, il y a un jugement divin, mais il y a aussi une responsabilité de la part de l'homme. Les actes d'Abimélech étaient profondément immoraux. Il a assassiné ses frères, il s'est emparé du pouvoir par la manipulation. Les chefs de Sichem, eux, ils ont été complices, dans le sens où ils ont soutenu financièrement, avec l'argent de leurs idoles, l'ascension violente d'Abimélec. Et donc, cet esprit mauvais a servi d'instrument de jugement, de justice, où Dieu a fait retomber sur ces personnes les conséquences de leur péché. Alors, je crois que on peut prendre ça comme exemple, comme illustration, même si c'est pas tout à fait la même chose, pour comprendre que même dans le système de justice, même qui existait autrefois, qui existe encore dans certains pays, lorsqu'il y a des exécutions, par exemple, il y a un bourreau. Il y a une personne qui va, par son geste, faire quelque chose de mal, de violent. Mais c'est quelque chose qui a été dicté, qui a été demandé par la justice. Et donc, un bourreau va accomplir en cela un acte de justice. Tout comme là, cet esprit mauvais que l'Éternel envoya, comme un bourreau, il a fait quelque chose qui a fait du mal, mais c'était un acte de justice. Et dans toute l'Écriture, Dieu, on voit l'Éternel juger les individus ou les groupes d'individus impénitents, qui ne se repentent pas, qui continuent dans le péché, qui s'enfoncent toujours plus dans l'iniquité, et il va permettre que leur penchant naturel, explose, que leur penchant naturel les amène justement à être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des pécheurs, complètement pécheurs, et donc ça amène les conflits, ça amène le chaos, ça amène l'anarchie, ça amène des forces qui viennent détruire, qui s'abattent sur eux, et donc on doit regarder ce récit et tous les autres récits de cette manière-là, comme quoi Dieu va utiliser tout ce dont il a à sa disposition pour appliquer sa justice. Si on regarde à d'autres récits, on a un alignement entre ce qu'on voit ici dans le livre des Juges et dans d'autres passages, comme on avait vu avec celui de Saül. Mais rappelez-vous, le livre des Juges, il décrit un cycle. Ce cycle du peuple qui tombe dans le péché, qui subit l'oppression, qui implore Dieu, et Dieu délivre par l'intermédiaire d'un juge. Mais là, on a quelque chose de différent, et je ne sais pas si vous l'avez noté dans ce récit avec Abimélec, c'est que là, on a une personne qui va rompre avec ce schéma-là. On a une personne qui ne va pas forcément attendre que l'Éternel choisisse un juge. On a une personne qui veut le pouvoir du juge, qui veut le statut d'un juge, mais qui va le prendre de manière violente, qui va le prendre de manière malhonnête, et sans, bien sûr, l'approbation de Dieu. Et donc le règne d'Abimélec se transforme très rapidement en une tyrannie, motivée par son propre intérêt. Il ne recherche que son propre intérêt. Et dans ce récit, oui, cet esprit malin qui a été envoyé illustre la manière dont Dieu va employer des moyens naturels ou surnaturels pour corriger, pour juger le péché. Je parlais d'autres passages. Bon, on a mentionné celui de Saül. On peut aussi regarder au passage dans Exode avec Pharaon, où il est question que l'Éternel a endurci le cœur de Pharaon. C'est pas que l'Éternel lui-même il a choisi, je vais lui endurcir le cœur à celui-là. C'est l'Éternel qui choisit de laisser cette personne continuer dans la direction qu'elle a choisie, cesser son influence bienveillante, cesser d'être un frein aussi au péché des personnes. Et donc, ça crée des situations comme les personnes de Pharaon, comme Abimélec et d'autres. Mais ça montre surtout une chose. Encore une fois, c'est la souveraineté et l'autorité de Dieu dans les affaires humaines. Je crois aussi que cet événement préfigure la vérité que l'on voit dans le Nouveau Testament, hein, selon laquelle Dieu peut permettre le mal pour aboutir au bien ultime, au jugement, hein, comme l'enseigne Romains 8:28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En toute logique, l'inverse est vrai aussi. Ceux qui n'aiment pas Dieu, eh bien, ne vont plus bénéficier longtemps de la grâce, de la bienveillance, de la bonté de Dieu. Parce que même actuellement, Dieu reste bon et gracieux envers tous ceux qui sont pécheurs, envers ceux qui sont rebelles vis-à-vis de lui, qui sont ses ennemis, parce que, comme le dit l'Écriture, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Comme le rappelle l'Écriture également, la volonté de Dieu, hein, c'est que tous les hommes viennent à se repentir. Et donc pour Abimélec et Sichem, la conséquence immédiate pour eux, ça a été leur destruction. Et je crois que là, il faut retenir cela. C'est le jugement de Dieu qui s'est appliqué. On pourrait avoir plusieurs réflexions théologiques, hein, si vous voulez, sur ce passage et sur les autres. Mais je crois que la première des choses qu'il faut toujours et constamment se rappeler, c'est que la sainteté de Dieu exigera toujours que le péché soit traité. La justice de Dieu exigera toujours que le péché soit puni. Et la tyrannie d'Abimélec, la trahison de Sichem, provoque une confrontation directe entre eux, en laissant leur penchant naturel, attisé par un esprit mauvais, amener cette discorde à un point de conflit et de destruction chez Abimélec et les habitants de Sichem. Ce récit, oui, souligne que la justice de Dieu n'est pas forcément immédiate non plus. Abimélec a tout de même régné pendant 3 ans. On sait que le peuple d'Israël a été esclave en Égypte pendant 400 ans. On sait que Dieu ne va pas forcément appliquer sa justice tout de suite, mais il arrive que dans l'histoire humaine, parce qu'il y a une situation qui éventuellement pourrait affecter le plan de Dieu, à ce moment-là, Dieu va agir. Des situations comme le déluge, c'est la justice de Dieu pour empêcher que le péché continue de corrompre le monde au point où il n'y a vraiment plus du tout de possibilité pour le salut de l'humanité. Avec des êtres qui, chaque jour, pensaient uniquement au mal, au péché, etc., il n'y avait plus la place dans leur cœur, dans leur pensée, pour la justice, pour le bien. Sodome et Gomorre sont aussi des exemples de la justice de Dieu, mais à chaque fois, on voit que Dieu permet tout de même un certain laps de temps pour qu'il y ait cette possibilité tout de même à l'être humain de se repentir et de changer sa voie. L'épisode du livre des juges, ici au chapitre 9, donc sert à la fois d'avertissement, parce que ça doit nous rappeler que même si on peut penser que Dieu ne juge pas tout de suite, je peux me permettre les choses, etc., ça peut tomber à n'importe quel moment. Mais c'est aussi une assurance pour nous qui aimons la justice de savoir et de voir que Dieu va appliquer sa justice. Il peut le faire au cours de notre vie, mais on a cette assurance, selon les prophéties et les promesses de Dieu, que tout homme sera jugé, selon s'il aura fait de bien ou de mal, selon son salut en Jésus-Christ ou non, mais tout être humain sera jugé. Et donc ça reste aussi une assurance pour tous ceux qui aiment et qui espèrent la justice de Dieu. Il met donc en garde contre l'arrogance de s'opposer aux voies de Dieu et offre la certitude, en fin de compte, que Dieu va réparer les injustices. Il y a certainement ici un passage qui est pertinent même pour nous aujourd'hui, hein, des leçons essentielles pour nous. Bon, là, on a des actes de trahison et de tyrannie. On a encore dans ce monde beaucoup de cela, n'est-ce pas ? Il n'est pas rare de voir dans les actualités ce genre de situation-là. Des trahisons, il y en a à tire-larigot avec déjà les problèmes dans les couples, les personnes qui vont trahir dans ce sens leur conjoint en allant vers quelqu'un d'autre. Des trahisons dans le monde politique, ça se fait fréquemment également. Mais pour nous, C'est sûr qu'il n'est pas rare de se demander pourquoi tout cela semble rester impuni. Et donc oui, le livre des Juges nous rappelle cela, nous rappelle que on a un Dieu qui est patient, mais on a un Dieu qui montre qu'il est toujours au contrôle, on a un Dieu qui nous montre que sa justice s'applique à divers moments et s'appliquera entièrement un jour, et nous devons donc en avoir cette assurance, et cette assurance qui doit nous continuer à ne pas être à pas se laisser décourager lorsque l'on voit l'injustice autour de nous. Il y a ce verset hein, dans Ecclésiaste chapitre 3 qui nous rappelle que Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui détermine le temps. C'est pas nous. Mais dans ce même passage, il dit qu'il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, hein, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et lorsqu'il va agir dans notre vie, dans la vie de notre entourage, lorsqu'il agit dans l'histoire de l'humanité, mais encore aujourd'hui, on doit se rappeler que son plan pour l'humanité est quelque chose de beau. Dans le livre du prophète Ézéchiel, hein, au chapitre 33, verset 11, tout à l'heure je citais Pierre, hein, lorsqu'il dit que Dieu montre de la grâce et de la patience, hein, parce qu'il veut que tous les hommes viennent à la repentance. Ce passage d'Ézéchiel 33 montre que ce même Dieu de l'Ancien Testament et ce Dieu que nous avons dans le Nouveau Testament, c'est le même Dieu qui a toujours ce même désir. Ézéchiel 33, 11 nous dit, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? La volonté, le désir de Dieu, c'est que chaque être humain puisse vivre et connaître la grâce de Dieu, vivre pour l'éternité avec lui. Mais on comprend aussi que Dieu, en accordant ce libre arbitre à l'être humain, ne va pas forcer qui que ce soit à accepter sa grâce, à se repentir, hein, il ne tord pas le bras de qui que ce soit pour avouer, confesser quoi que ce soit. Il attend que cela vienne de l'être humain. Donc Dieu va agir pour convaincre les personnes qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin de changer, qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu pour accomplir cela. Dans notre vie aujourd'hui, on peut voir effectivement que il y a des conflits, il va y avoir des conflits entre les personnes, il va y avoir des conflits entre des organisations, etc., qui vont causer des divisions. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il y a un esprit mauvais qui cause cela. Faut pas oublier non plus que nous sommes tout de même responsables de ce que nous faisons. Nous sommes responsables de nos pensées, de nos actions et de nos paroles. Et quand nous avons des personnes, même au sein d'églises, lorsque nous avons des chrétiens qui ne vivent pas proches du Seigneur, qui se sont éloignés de l'influence de l'Esprit-Saint dans leur vie, éloignés hein, de la parole de Dieu, eh bien, leurs penchants naturels vont reprendre le dessus sur leur façon de penser, leur façon de réagir, de parler, etc. Donc, c'est pas forcément que, voilà, il y a un esprit malin à chaque fois, à chaque situation. Il faut se rappeler que, dans la plupart des cas, nous sommes ce que nous sommes et nous sommes responsables de cela. Et donc, l'Écriture, oui, affirme que Dieu peut permettre des épreuves dans notre vie pour amener l'orgueilleux à s'humilier ou bien pour corriger les injustices qui existent, mais ce n'est pas forcément tout le temps que Dieu va laisser un esprit mauvais agir et perturber la vie d'une personne hein, et laisser une personne dans ses penchants. Donc, Juge 9 affirme aussi que, voilà, la justice de Dieu peut être immédiate ou non, mais qu'elle va s'appliquer, que Dieu est souverain sur toute chose et il emploie les moyens qu'il veut pour accomplir son jugement. Hein, il a Genèse 6 avec Noé, il a utilisé les éléments naturels, hein, de l'eau, hein, pour provoquer un cataclysme et ainsi accomplir ce jugement sur l'humanité. Donc, pour résumer, hein, par rapport à cette question, comment se fait-il que, oui, Dieu emploie des esprits malins, mauvais, hein, comme ça a été le cas ici dans le Juge 9? 1. pour appliquer donc sa justice. Parce que ces personnes étaient coupables. Elles étaient coupables de péché, coupables de choses horribles. Cet esprit mauvais, oui, symbolise cette perturbation, hein, cette discorde qui a eu lieu hein, dans ce, entre Sichem et Abimélec. Mais c'est aussi le moyen que Dieu choisit pour provoquer la chute d'un régime oppressif. Je crois que si on oublie le résultat de cela, si on oublie le résultat de cet esprit mauvais qui est venu, qui a porté cette discorde entre Sichem et Abimélec, et qu'on oublie qu'à la fin, finalement, ben voilà, la tyrannie, elle est partie. Abimélec, son règne n'a duré que 3 ans. Ce récit souligne la sainteté de Dieu, hein, l'inéluctabilité de sa justice, et ça constitue un enseignement durable hein, sur les conséquences aussi des péchés qui ne sont pas confessés, où on ne s'est pas repenti. Donc à travers le témoignage constant hein, de ce que l'on voit dans les Écritures, on voit, oui, Dieu ne reste pas indifférent à la condition humaine. Il ne reste pas indifférent à l'injustice et ne reste surtout pas indifférent au péché. Et ce livre des juges, particulièrement ce chapitre 9, nous rappelle cela. Et nous rappelle que, oui, on a un Dieu souverain qui, quand il voit que les choses peut-être vont trop loin, il va agir et ça va être une action, on va dire, très drastique hein, pour les personnes impliquées dans cette situation-là. Mais la justice de Dieu règne. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que l'on a vu hein, sur ce chapitre 9, sur cette question hein, de comment Dieu hein, peut employer tout ce qu'il veut, hein, tout ce qu'il a à sa disposition pour sa justice?